Salut à tous, je suis Laetitia Fall et vous écoutez Vendu, le podcast pour développer ses ventes. Savoir vendre un produit ou un service, ça n'est pas un talent inné. La vente, c'est avant tout l'application de méthodes dans un environnement et contexte donné. Un vendredi sur deux, on parle ici de ces méthodes, mais aussi de process, d'argent, d'objectifs, de recrutement, des outils pour être plus performant et des inspirations pour atteindre toujours le même objectif, vendre bien et plus. Mon objectif ? C'est de te partager à chaque épisode mon expérience et un tips à activer et à t'approprier pour vendre plus au quotidien. C'est ta dose de culture sales. Bonne écoute. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bel été. Moi, c'est bientôt la fin des vacances. Bon, je me plains pas, j'ai fait le plein de soleil, de mer, de sport et je suis d'attaque pour continuer ma mission, c'est-à-dire continuer à t'accompagner dans le développement de tes ventes. D'ailleurs, petite information, je lance la saison 2 du podcast début octobre. J'ai reçu des messages de certains d'entre vous pour m'indiquer les thématiques qu'ils aimeraient que j'aborde. Et il est toujours temps de le faire. En gros, tu peux me dire quel contenu t'aide le plus au quotidien dans tes ventes. Par exemple, est-ce que c'est les sujets liés à la prospection, à la gestion de tes rendez-vous, aux objections, à la relation client ou au mindset, etc., etc. Tu peux m'écrire par mail ou en DM sur LinkedIn et Instagram. Je te mets toutes les informations dans la description du podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série sur la psychologie de la vente. Une série où je prends le temps de présenter 7 principes psychologiques qui influent sur notre décision d'acheter et surtout, comment les utiliser pour persuader et vendre plus facilement. Pour rappel, l'objectif de cette série est de te présenter les facteurs qui poussent un client à dire oui. Dans le premier épisode, on a parlé des biais cognitifs qui nous influencent tous dans nos choix. Si t'as pas écouté l'épisode, c'est pas grave du tout, tu peux le faire plus tard. Les épisodes de cette série peuvent s'écouter dans le désordre. Dans cette série, je vais illustrer les principes avec des exemples de la vie de tous les jours ou présents dans le livre de Robert Cialdini, Influence et Manipulation. Il a étudié pendant des années le cerveau humain et les mécanismes psychologiques qui nous poussent à agir. Si tu ne l'as pas lu, je t'encourage fortement à le faire parce que tu me connais. L'idée ici, ce n'est pas de faire un résumé du livre, mais de te donner des bonnes pratiques que j'ai testées ou observées. On va d'abord se concentrer sur 3 des 7 principes psychologiques que j'ai cités dans le premier épisode, qui sont la réciprocité, la sympathie et l'unité. En gros, tous les principes qui concernent les relations avec les autres. Dans les prochains épisodes, on parlera des 4 autres principes qui sont l'engagement et la cohérence, l'autorité, la rareté, la preuve sociale. Si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes, inscris-toi à la newsletter. Je partage tous les 15 jours une curation des meilleures ressources sur la vente. Allez, on commence. Premier principe, la réciprocité. Ce principe est basé sur le fait que si quelqu'un a fait quelque chose pour toi, tu vas te sentir obligé de rendre l'appareil ou de répondre favorablement à ses demandes. Automatiquement, ça va créer une sorte de dette mentale. C'est très puissant parce qu'on a été formaté dès l'enfance qu'il faut rendre lorsqu'on reçoit, sinon on risque de passer pour un ingrat. Et bien sûr, on est soumis à cette pression sociale de tout faire pour ne pas avoir l'air d'un ingrat ou d'un profiteur. Du coup, les échantillons de produits offerts, les dégustations gratuites qu'on te propose dans un magasin ou les bonbons qui accompagnent ton addition dans un restaurant, tout ça a pour objectif d'engager une réciprocité qui peut déclencher soit un achat, un pourboire ou encore une recommandation. Cialdini donne dans son livre quelques exemples que tu as sûrement déjà entendus. En 1985, l'Éthiopie est dans une situation économique catastrophique. Et pourtant, elle va faire un don de milliers de dollars d'aide humanitaire au Mexique qui est victime à ce moment-là d'un gros tremblement de terre. Pourquoi ? Parce qu'en 1935, le Mexique a soutenu et défendu l'Éthiopie contre l'invasion italienne et lui a évité d'être colonisé. Un autre exemple plus moderne, c'est une étude dans une salle d'attente où des chercheurs offrent une canette de coca à 1 dollar à des personnes. Bien sûr, ces personnes ne savent pas qu'ils sont victimes d'une recherche, et après avoir offert la canette, les chercheurs proposent des billets de loterie à 5 dollars en indiquant qu'ils ont du mal à les vendre. Résultat, plus de 70% des personnes achètent plusieurs tickets de loterie et dépensent plus que la valeur de la canette. Autre résultat, parmi les personnes qui n'ont pas reçu de canette en cadeau, on a seulement 15% des personnes qui achètent des billets de loterie. Bon, tu as compris l'idée, ce principe marche tellement bien qu'il est utilisé partout. C'est d'ailleurs ce principe qui est à l'origine d'une pratique chez les commerciaux d'inviter ses clients à déjeuner. En plus de créer un moment convivial et d'en apprendre plus sur les enjeux des clients, ça reste un geste qui ne sera jamais oublié. Du coup, comment on peut utiliser ce principe dans son processus de vente ? Prenons l'exemple de ma start-up. Une de mes cibles était les comptes du CAC 40, les grands groupes. C'est une cible qui a l'avantage d'avoir du budget, mais qui dispose déjà de plusieurs solutions, qui est très sollicitée et qui nécessite de convaincre plusieurs personnes. L'enjeu pour mon équipe, c'était d'attirer l'attention des grands groupes et de leur donner envie de nous consacrer quelques minutes pour identifier quelles étaient leurs difficultés, leurs besoins non couverts et leur démontrer qu'on avait la solution à leurs problèmes de recrutement. Comme on organisait en parallèle de notre solution en ligne des événements de recrutement physique au cinéma, où l'objectif était de proposer une expérience de recrutement insolite, on réservait quelques places gratuites pour inviter les décideurs des entreprises qu'on n'arrivait pas à signer. On les traitait pendant la soirée comme nos clients, avec un accompagnement aux petits oignons, et 100% d'entre eux devenaient nos clients. Alors attention, pas uniquement parce qu'on offrait un cadeau, mais aussi parce que ce qu'on offrait avait beaucoup de valeur. La plupart de ces entreprises ont recruté des profils sur des métiers en tension après ces soirées. Elles connaissaient le coût et ces événements oscillaient entre 3 000 et 15 000 euros. Et donc bien sûr, quand je rends un service qui me coûte cher ou demande un grand effort de ma part, ça enclenche plus de réciprocité. Une autre pratique que je mettais en place, c'était la création de contenu. On savait qu'une des difficultés de notre cible était le recrutement d'alternants. Il existe énormément de formations, plusieurs rythmes d'alternance, des prix et des types de contrats différents. Et partant de ce constat, on a créé un répertoire de toutes les formations d'alternance par métier avec toutes les informations importantes pour permettre aux recruteurs de gagner du temps. On communiquait ce répertoire dans nos emails avec un call to action pour proposer un rendez-vous. Et là encore, ça augmentait considérablement le volume de rendez-vous pris. Alors attention, une nouvelle fois, il faut que le contenu soit qualitatif et réponde aux besoins de ta cible. Malheureusement, il y a beaucoup trop de contenu avec de fausses promesses où on se rend compte après avoir téléchargé un e-book ou visionné une vidéo qu'on n'a rien appris. Pour conclure sur ce principe, donner à ses prospects quelque chose de gratuit qui a de la valeur augmente les chances de conclure une vente. Si tu as une solution en ligne, tu peux offrir un test gratuitement sans rien demander en retour pour convaincre de la valeur. Il y a des chances que les curieux soient plus réceptifs à tes relances par email ou par téléphone. Si tu vends un service, par exemple, du consulting, tu peux aussi proposer un essai gratuit pour permettre de mieux visualiser les bénéfices. Et enfin, pour une solution physique, tu peux proposer des échantillons à tester gratuitement. Deuxième principe, la sympathie. Ce principe est basé sur le fait que si on aime quelqu'un, on sera plus susceptible d'accorder quelque chose à cette personne ou lui dire oui. C'est un mécanisme d'influence très intuitif, basique, mais difficile à mettre en place. La recherche a montré qu'il y a 4 facteurs qui peuvent causer la sympathie. 1. L'attractivité physique. Chaldini parle dans son livre d'une étude qui fait froid dans le dos. Elle porte sur des élections au Canada qui ont eu lieu et qui montre que les candidats séduisants ont eu 2,5 fois plus de voix que les candidats moins séduisants. Mais ce qui est le plus marquant, c'est que des recherches complémentaires montrent que les électeurs n'ont pas conscience de la distorsion. 73% des électeurs canadiens interrogés ont nié que leur vote ait pu être influencé par l'apparence physique du candidat. On a le même phénomène dans le recrutement. Une étude a démontré que lors de simulations d'entretien d'embauche, la présentation des candidats pesait davantage en leur faveur que leurs qualifications. C'est ce facteur d'ailleurs qui pousse les marques à réaliser des partenariats avec des influenceurs. Par exemple, Lena Situation, une youtubeuse très connue, permet à Dior de générer des millions de chiffres d'affaires, en partie parce qu'il y a des tas de gens qui la trouvent sympathique. C'est un facteur injuste et donc je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus. Mais ce que je peux conseiller, c'est de mettre une attention particulière sur son apparence en rendez-vous. Même si on est de plus en plus en visio, être soigné et bien présenté va nous aider à construire la confiance avec nos interlocuteurs. 2. La similitude. On trouve les personnes qui nous ressemblent plus sympathiques. Du coup, c'est important de s'adapter au code de sa cible. Je vais donner un exemple. J'avais une sales qui était de nature très dynamique, on va l'appeler Margot. Généralement, les prospects aimaient bien son enthousiasme. Un jour, j'accompagne Margot sur un gros rendez-vous avec une marque de luxe. Et dès le début de la conversation, on sent que la directrice de recrutement est un profil plutôt introverti. Mais Margot, elle ne prend pas le temps de prendre cette information en compte et d'adapter son style. Elle est, comme d'habitude, assez pushy et volubile pendant tout le rendez-vous. Au fur et à mesure du rendez-vous, l'interlocuteur se ferme de plus en plus et on sent qu'elle veut que l'échange se termine le plus vite possible. Résultat, aucune connexion possible. Du coup, elle a eu du mal à conclure le deal et quelques temps plus tard, Margot m'a avoué qu'elle avait compris qu'elle ne s'était pas adaptée au mood de la cliente et c'était une des raisons pour laquelle elle n'avait pas réussi à créer un climat de confiance. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut changer sa personnalité, mais plutôt être en mesure de montrer qu'on a compris les règles de l'environnement du client et qu'il ne prendra pas de risque avec nous. Je dis ça, mais en même temps, c'est important de montrer qui on est vraiment, nos failles et nos intérêts. Être trop lisse peut aussi nous pénaliser dans une relation commerciale. Personne n'est parfait et personne ne réussit tout. Du coup, montrer qu'on fait aussi des erreurs, qu'on a rencontré les mêmes problèmes que son interlocuteur ou qu'on parfois on a dû faire des ajustements pour obtenir des meilleurs résultats avec un client peut nous aider à construire une confiance avec nos interlocuteurs. Ben oui, parce que nos prospects travaillent dans des entreprises où il y a des commerciaux qui vendent un produit et ils savent très bien qu'il n'est pas parfait. Bref, laisser tomber l'idée qu'on doit être parfait, ça peut rassurer et aider à mieux connecter avec ses interlocuteurs ou ses clients. D'ailleurs, t'as dû remarquer qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs conseiller de communiquer sur sa vie, sur ses goûts ou sur ses difficultés. Bon, moi personnellement, je suis plutôt dans la team de ceux qui pensent qu'il faut faire attention à ce qu'on partage. On n'est pas tous égaux là-dessus, sur ce qu'on est prêt à montrer. Mais si je prends mon exemple, un client peut voir assez facilement sur les réseaux que je suis un entrepreneur, autodidacte, très attaché à l'inclusion et que je suis passionné par la vente. Et donc, assez naturellement, je connecterai plus facilement avec ceux qui s'identifient à un de ces aspects. Dernier exemple, effectivement, ce n'est plus tendance de s'habiller en costume ou en tailleur pour aller chez un client. Sauf dans certaines industries où il y a des codes vestimentaires encore très présents. Alors, même si la Startup Nation est passée par là et a démocratisé les baskets en rendez-vous, je te conseille d'étudier les pratiques pour éviter d'être en décalage et d'être déstabilisé pendant un rendez-vous. 3. Les compliments. Les compliments sincères créent la sympathie. Il existe des moments dans la relation client où on peut valoriser les progrès et les réussites de ses clients. Personnellement, j'aimais utiliser le moment des bilans intermédiaires pour le faire. Alors, bien sûr, ça nécessite de la préparation pour analyser l'utilisation du produit ou du service, identifier ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et les plus par rapport aux autres clients. Mais généralement, prendre ce temps de féliciter à l'oral ou à l'écrit m'aidait à engager plus mes clients et surtout leur donner envie de s'investir plus et donc de construire un partenariat longue durée. Et pour finir, 4. Contact et coopération. Avant la vente, toutes les questions qu'on pose pendant la phase de découverte est un moyen de se rendre sympathique. Et oui, c'est le moment où on co-construit avec son interlocuteur pour le comprendre et apporter la meilleure solution. On oublie son produit, on est focus sur le client, on travaille ensemble à la résolution de son problème. Bref, on est son partenaire pour réussir ses objectifs. Mais pour qu'on puisse faire cet effet-là, je le répéterai jamais assez, il faut préparer ses questions, préparer les bonnes questions à poser pendant la phase de découverte. Après la vente, je conseille de programmer des contacts réguliers avec ses clients. Ça montre qu'on s'intéresse réellement à leurs enjeux, à leur réussite et à leur actualité. Alors oui, on est tous très occupés, mais on sous-estime vraiment la valeur de prendre des nouvelles de ses clients quand on n'a rien à leur vendre. Allez, on finit par le troisième principe, l'unité. Ce principe est basé sur le fait que si on considère quelqu'un comme l'un des nôtres, cette personne pourra exercer plus d'influence sur nous. Ça rappelle la pyramide de Maslow et notre besoin d'appartenance. Ce principe, c'est la raison pour laquelle on voit partout les entreprises, les influenceurs et les personnalités communiquer sur leur identité pour créer un sentiment d'unité avec leur cible. Cialdini décrit dans son livre plusieurs techniques utilisées pour créer justement ce sentiment d'unité. Il y en a une qui me semble intéressante pour nous ici, c'est la co-création. Tu as dû voir pas mal d'entrepreneurs ou de créateurs sur les réseaux inviter leur cible à co-créer avec eux leurs produits. Cialdini donne comme exemple un restaurant de restauration rapide où les consommateurs sont invités à donner leur avis sur le concept du restaurant. Mais dans l'enquête, on ne leur demande pas tous la même chose. Un premier groupe, on leur demande des conseils. Un deuxième groupe, on leur demande leur opinion. Et au troisième groupe, on leur demande leurs attentes. À la fin, on leur pose une question, une dernière question. Quelle est la probabilité que vous alliez manger dans ce restaurant? Ceux qui ont donné des conseils sont plus susceptibles de vouloir manger dans le restaurant que les deux autres groupes. Cialdini interprète que le groupe qui a donné des conseils a estimé qu'il a co-créé le concept et que c'est le mot « conseil » qui a donné ce sentiment d'unité. Du coup, inviter ses prospects ou clients à collaborer sur un projet participe à booster ses ventes. Tout le monde est content de voir ses idées prises en compte. C'est quelque chose d'hyper gratifiant. Une année, j'avais identifié qu'il y avait une partie des entreprises que je ne parvenais pas à convertir à cause d'une fonctionnalité manquante. Ça représentait une perte de chiffre d'affaires non négligeable. Et on l'a déjà vu, on n'a pas des dizaines de possibilités et d'occasions d'échanger avec certains prospects. Du coup, plutôt que de raccrocher et dire à ces prospects que je ne peux rien faire pour eux, je les ai sollicités en leur proposant de nous aider à développer la fonctionnalité qui faciliterait leur recrutement. Après des entretiens et des communications sur l'avancement de la fonctionnalité et le développement de la fonctionnalité, on a réussi à les convaincre de devenir des clients. Du coup, il ne faut pas hésiter à interroger et à impliquer tout le temps ses prospects et ses clients. Voilà pour les trois premiers principes psychologiques qui influent sur notre décision d'acheter. J'espère que les exemples que je t'ai donnés t'aideront à optimiser ton processus de vente. Dans le prochain épisode, on parlera des principes de la preuve sociale et de l'autorité. Avant de te laisser, juste un petit mot. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux le faire en me laissant un avis sur Apple Podcast ou 5 étoiles de préférence sur Spotify. Allez, à très vite! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ça t'a plu, c'est maintenant qu'il faut m'aider. Et je vais te dire comment. Abonne-toi à Vendu sur ton appli de podcast. Si tu es sur Apple Podcasts, iTunes ou Spotify, tu peux laisser un avis 5 étoiles de préférence pour m'aider à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si tu veux me suivre sur les réseaux, c'est sur Instagram que je suis, @vendu, V-E-N-D-U.E, ou sur la page LinkedIn Vendu, V-E-N-D-U-E. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.